Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Connaissez-vous la légende amérindienne du colibri ? Non ? Alors la voici. Alors qu'un immense incendie ravageait la forêt, laissant les animaux hagards et pétrifiés devant la catastrophe en cours, le colibri, lui, s'activait entre la mare et les flammes. À chaque passage, l'oiseau courageux vidait de son bec minuscule quelques gouttes d'eau dérisoires face à l'intensité du feu. « Que fais-tu ?» lui demandèrent agacés les autres animaux. « Crois-tu qu'avec ces quelques gouttes, tu puisses éteindre le feu ?»« Non, leur répondit-il, mais je fais ma part. » Si l'université n'a pas la prétention de changer le monde à elle toute seule, elle nourrit l'ambition d'y contribuer en mettant ses découvertes et ses résultats au service de la société. C'est cette part d'innovation, cette mission de service public que nous vous proposons de découvrir au fil des pages du nouveau numéro de LUM, la revue Sciences et Société de l'Université. Une version papier enrichie qui vous propose un accès vers des vidéos mais aussi vers les podcasts de l'émission Allume la Science. Donc au fil des pages, vous passerez de la chimie écologique à la chirurgie de pointe, de la préservation des océans à la mise au point de nouveaux médicaments, de la cryptosécurité à la blockchainisation des registres juridiques. Ce numéro de LUM vous donne donc un aperçu de l'impact positif de la recherche universitaire mise au service de la société. Et pour prolonger ce magazine aujourd'hui, nous recevons deux invités à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'aviation. Leur objectif, améliorer la sécurité et la performance dans l'aviation civile et militaire. Comment ? En contrôlant l'état opérationnel des pilotes d'avion grâce à un capteur capable de mesurer en temps réel leur activité cérébrale. Une innovation testée sur les pilotes de l'équipe de France de voltige aérienne, rien que ça. Alors notre premier invité est avec nous dans le studio, il est chercheur en neurophysiologie à Euromove Digital Health in Motion, j'ai réussi, Stéphane Perret, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Notre second invité est avec nous par téléphone. Il est ingénieur et fondateur de la start-up Semaxon dont nous allons parler aujourd'hui. Guillaume Belda, bonjour.
Bonjour.
Elle voltige au micro de Divergence FM avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
C'est mignon aujourd'hui.
Tout à fait, pour une fois.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'École nationale supérieure de chimie où Nicolas Floquet nous fait découvrir la désormais célèbre protéine Spike impliquée dans le Covid, mais cette fois-ci en réalité virtuelle. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors ce LUM spécial innovation, c'est aussi des histoires de partenariat, des histoires de collaboration entre des entrepreneurs et des chercheurs. Donc Stéphane Perret et Guillaume Belda, comment ça s'est passé pour vous ?
Alors quand on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, donc on a la chance au centre Euromove d'avoir effectivement un espace dédié pour accueillir tout simplement des entrepreneurs. C'est par l'intermédiaire de l'incubateur des mines d'Alès que j'ai eu l'occasion de rencontrer Guillaume Belda. Et par la suite, donc, nous avons pu faire un premier projet, notamment MUSE, Company Zone Campus. Et nous avons pu héberger la société Semaxon pendant un an et demi.
Et alors Guillaume Belda, comment vous avez eu connaissance des travaux de Stéphane Perret ?
Au travers des conseils de l'incubateur de l'Institut Télécom mines d'Alès, qui connaissent bien les travaux de Stéphane Perret et qui m'ont orienté vers son expertise lorsque je leur ai présenté les problématiques que je souhaitais résoudre avec Semaxon, c'est-à-dire du monitoring physiologique en temps réel.
Alors justement, Guillaume, votre spécialité à vous en tant qu'ingénieur, c'est plutôt l'ergonomie. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler sur l'état opérationnel des pilotes d'avion ?
Eh bien, c'est tout d'abord issu d'un parcours personnel, puisque je suis passionné d'aéronautique depuis aussi loin que je me souvienne. Et lorsque j'ai réalisé ma formation, d'abord d'ingénieur en informatique, puis en ergonomie, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on pouvait mettre au service des pilotes ces différentes technologies. Au fur et à mesure de mes réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que en mélangeant certaines technologies, certains domaines scientifiques, qu'on pouvait faire émerger des solutions qui sont à la fois innovantes et qui apportent un vrai plus pour les pilotes.
Alors votre projet, il comporte plusieurs volets, on y reviendra. Nous, on va surtout parler de l'impact des accélérations successives sur les capacités cognitives des pilotes. Donc ces accélérations, elles se mesurent en G. Donc ceux qui ont été voir Top Gun Maverick, ils doivent savoir. Mais pour les autres, qu'est-ce que c'est exactement un G? Donc qui veut répondre? Guilhem Belda?
Oui, alors en fait un G, ça va être l'effet de la pesanteur sur le corps. Et lorsque le corps va être soumis à des accélérations, ces accélérations vont se mesurer en G, et en fonction de ce facteur-là, le pilote va avoir l'impression d'être plus lourd et donc de peser plus lors des différents mouvements. Donc il existe différents types de G. Le G qu'on connaît tous, ça va être le G positif qu'on va ressentir lorsqu'on est dans un manège ou lorsqu'on va faire une accélération un peu brutale avec une voiture un peu puissante. Mais il existe aussi des G qui vont être négatifs. Donc là, en fait, ça va être des G où le sang va se déplacer dans le corps pour aller vers la tête, qui, à l'inverse des G classiques, qu'on appelle G positifs, où le sang, lui, va partir de la tête. Par ailleurs, les G peuvent être très variables. Donc on peut avoir des G sur le côté. Lorsqu'on va faire une courbe, par exemple, dans ce cas-là, on va avoir un mouvement qui va entraîner cette accélération. Et on a aussi des G à l'arrêt. Lorsqu'on a un arrêt brutal à ce moment-là, on va subir cet arrêt-là.
Et alors justement, ces accélérations sur lesquelles vous avez travaillé, Stéphane par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner un comparatif pour qu'on se rende mieux compte de quel ordre il s'agit?
Oui, alors effectivement, suite à la définition de Guilhem, donc on parle communément aussi de facteurs de charge, c'est-à-dire qu'on a toujours on pèse toujours effectivement on a les mêmes kilogrammes. Par contre, selon la loi de Newton, on est un petit peu plus lourd en termes de poids. Et en termes de grandeur, on peut effectivement aller jusqu'à 3G de manière assez rapide. Et c'est là qu'on peut avoir déjà les premiers symptômes un petit peu de malaise. Et par la suite, on peut aussi avoir des pertes de repères au niveau de la vision. Notamment, on parle communément du voile gris à partir de 4G environ, et après 5G, ça ce sont juste des normes, en sachant que la tolérance des individus peut être très très variable selon plusieurs facteurs, dont l'entraînement, tout simplement l'inexpérience.
Et le voile gris dont vous nous avez parlé, vous pouvez nous décrire un peu ce que ça fait à la personne qui le subit?
Le voile gris, c'est tout simplement une redistribution du débit sanguin par rapport à ces facteurs de charge qui sont très intenses, et on est tout simplement, la rétine est moins bien alimentée, et on voit de plus en plus flou. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'on a sans doute peut-être des décisions qui vont être relativement erronées et qu'il va falloir peut-être diminuer un petit peu son ardeur dans l'avion et ralentir tout simplement, ou alors voler, on va dire, de manière très stable.
Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres effets sur le corps, notamment sur le cerveau? Vous parlez par exemple du risque de syncope. Est-ce que c'est une syncope spécifique à cette activité-là?
Oui, un des risques majeurs, c'est effectivement sur la partie cérébrale. Donc on a un mécanisme très très pointu d'un point de vue physiologique qui permet de réguler, de faire face à la variation de la pression artérielle qui est fortement modifiée selon les facteurs de charge. Pour autant, si ce facteur de charge, c'est-à-dire ce G, augmente très très vite, là par contre ce mécanisme n'existe plus. Et on peut effectivement, dans certains contextes, avoir une perte de conscience. On ne parle pas vraiment de connaissance, une perte de conscience, on va dire, très éphémère. Et on peut avoir même un voile noir, donc véritablement une vision qui est totalement occultée à partir de 5G. Alors ça dure quelques secondes, ça dépend effectivement au-delà du G, du temps passé à ce G. Donc il y a plusieurs contextes qui permettent effectivement de faire apparaître ces différents symptômes qui sont relativement délétères.
Et quand on dit qu'ils sont délétères, même en amont de cette perte de conscience, est-ce que ça peut affecter la capacité de prise de décision des pilotes, par exemple?
Oui, parce que tout simplement, donc, on a moins de flux sanguin qui arrive directement sur le cerveau. Et automatiquement, ici, certaines zones, notamment en lien avec la prise de décision, le cortex préfrontal, vraiment la partie antérieure, tout simplement est moins fonctionnelle. Et à terme, ça peut effectivement, selon les répétitions, avoir ici donc des conséquences assez importantes et tout simplement générer des incidents assez dramatiques à terme.
Alors comment vous la mesurez justement, cette oxygénation du cerveau? Il y a une méthode que vous utilisez depuis quelques années, je crois.
Alors l'oxygénation du cerveau, oui, est basée effectivement sur la spectroscopie du proche infrarouge. C'est un nom un petit peu complexe, mais au final qui est relativement simple selon son principe. C'est tout simplement, on a la capacité dans la lumière proche infrarouge, entre 650 et 800 nanomètres, de venir apprécier les variations de l'état d'oxygénation dans une partie qu'on connaît très bien au niveau des hématies, donc c'est l'hémoglobine, donc la quantité d'oxygénation ou non. Et on peut, en additionnant effectivement cette concentration oxygénée ou désoxygénée, apprécier les variations de volume sanguin. Et en fonction du temps, on peut avoir un indicateur sur le flux cérébral. Donc c'est une technique assez sensible. Donc en quelques millisecondes, on peut effectivement voir les variations de flux sanguin. Celles-ci sont véritablement modératrices de ce qui va se passer par la suite au niveau du fonctionnement cérébral. Je fais référence ici aux fonctions exécutives, dont celle qu'on vient d'évoquer, à savoir la prise de décision.
Mais ça a un rapport avec la pince qu'on met au bout du doigt quand on va chez le médecin.
Exactement, c'est le principe un petit peu du saturomètre qu'on mesure l'oxygénation, on va dire systémique. On a une valeur en pourcentage. Ici, on peut également avoir un index tissulaire en pourcentage qui sera beaucoup plus faible. Mais surtout, on a, selon une propriété en optique relativement bien connue, hein, pour simplifier un petit peu le cheminement de ce système, la loi de Beer-Lambert, on a la possibilité d'avoir vraiment les variations de ces deux grands chromophores, l'état d'oxygénation et de désoxygénation. Et ça, c'est indépendant du saturomètre. Donc c'est plus un spectrophotomètre en complément. Donc il y a différents appareils en fonction aussi des ondes que vous allez pouvoir, transmettre dans le dispositif. On utilise à l'heure actuelle un système relativement simple qu'on trouve un petit peu sur étagère, c'est-à-dire d'un point de vue commercial. Il y a des systèmes dans certains laboratoires du laser qui sont beaucoup plus compliqués.
Et justement, c'est sur la base de toute cette technologie-là que vous avez conçu un petit boîtier pour contrôler l'oxygénation du cerveau. Ce boîtier, il est embarqué directement avec le pilote dans l'avion.
Alors, un des intérêts, effectivement, de ce dispositif, et je laisserai Guillaume en parler davantage, c'est effectivement de pouvoir le rendre, en tout cas relativement, on va dire, simple, d'un point de vue, pas beaucoup de poids, un système qui est effectivement communicant à distance. Donc, c'est un système qui se veut être discret, qu'on peut loger directement dans le casque des pilotes, et on peut apprécier ici directement donc une information sur le tissu cérébral. On n'a pas besoin d'un emplacement, on va dire, très très spécifique au niveau du cortex préfrontal, ce qui peut être différent dans d'autres contextes, mais là, ce n'est pas nécessaire. Donc, le développement se fait avec la société CMAX One, et c'est Guillaume qui est ici à l'état opérationnel.
Alors, Guillaume, justement, j'ai une question pour vous. Vous travaillez, vous également, avec le laboratoire d'informatique d'Avignon sur les interactions entre pilote et copilote par l'analyse de la voix, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on s'intéresse à la voix, on ouvre un champ d'étude qui est, on va dire, plus riche qu'il n'y paraît, puisque produire de la parole va nécessiter la mobilisation d'un certain nombre de muscles, plusieurs dizaines, et aussi la mobilisation de plusieurs processus cognitifs. Et les événements qu'on va avoir en vol vont intervenir sur ces deux facteurs, donc à la fois sur les processus cognitifs, mais aussi sur les muscles eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'on va avoir une accélération, un G qui va être ressenti, on va avoir des pressions qui vont avoir lieu au niveau de tout l'appareil de production de la parole ou de la respiration. Et nous, on va essayer d'analyser dans le son les événements qui sont soit paralinguistiques, donc tout ce qu'il y a autour de la langue, donc la fréquence respiratoire, certaines prononciations, mais aussi des éléments plus dans la production de parole elle-même, qui, elles, vont plutôt on va dire être des indicateurs de ce que le cerveau va subir.
Mais ça veut dire que vous l'analysez en direct pour avoir les résultats instantanément ?
Voilà, en fait, on va d'abord procéder par des périodes de recueil de données, comme avec les données d'analyse cérébrale. Et là, on va faire apprendre, on va essayer de décortiquer les données pour mener le processus d'enquête et comprendre quel phénomène est associé à quel indicateur. Et ensuite, on va compresser ce que nous, on appelle des modèles d'analyse, afin qu'il soit capable de faire de l'analyse en temps réel, en vol.
Et est-ce que ça existe déjà des dispositifs comme ça qui permettent d'évaluer l'état d'un pilote en vol pour mieux sécuriser les vols ?
Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de dispositifs qui sont répandus sur cette problématique-là. Par contre, c'est un champ de recherche qui mobilise de nombreux acteurs, puisque les enjeux sont immenses d'un point de vue de la sécurité et de l'évolution des appareils. Mais c'est vrai qu'actuellement, la plupart de la mise en application de ces recherches d'ergonomie ont plutôt lieu lors des phases de conception des aéronefs et lors des phases de test.
Juste pour revenir sur le produit que vous concevez lui-même, il y a combien de capteurs alors dans le boîtier ? Un capteur pour la voix, un capteur pour l'oxygénation ?
Alors concrètement, en fait, quand on met un capteur en vol, on va être soumis à des contraintes qu'on n'a pas forcément en laboratoire. qui vont être tout d'abord les contraintes du bruit, puisque lorsqu'on fait une mesure en vol, que ce soit pour la voie où on va avoir du bruit qui vient du moteur de l'avion, qui vient de l'environnement, mais aussi au niveau du bruit, on va dire, du bruit statistique ou du bruit du signal qu'on peut avoir avec les mouvements, puisque le capteur risque de bouger par rapport à la tête et donc le signal va être moins clair. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un certain nombre d'algorithmes d'abord qui vont nettoyer et qui vont essayer de donner, de fiabiliser cette donnée-là. Et donc, au niveau des capteurs qu'on va intégrer, on va intégrer des capteurs de spectroscopie, des capteurs lumineux, qui vont permettre de mesurer l'évolution du flux sanguin. On va aussi associer des capteurs d'accélération, des accéléromètres tout simplement, et des micros. Et en combinant, on va dire, ces trois capteurs-là, on permet de compléter, de fiabiliser les mesures de chacun des capteurs par rapport aux autres. Donc ça, c'est un des travaux qu'on doit mettre en place lorsqu'on fait de la mesure en situation. Et en plus de ça, on va intégrer une petite unité de calcul dans laquelle on va mettre des modèles informatiques qui sont compressés et spécialisés pour fonctionner dans le milieu aéronautique.
Et une fois que vous avez recueilli toutes ces informations-là, alors qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un nouvel indicateur sur le tableau de bord ? Est-ce qu'on passe par un tiers qui préviendrait le pilote ? Comment vous imaginez la transmission d'informations ?
À ce niveau-là d'application, en fait, ça va dépendre du contexte et du partenaire. Mais en tout cas, nous, on a la capacité de lever des alertes assez précocement. Dans l'idéal, on aimerait aussi anticiper l'arrivée d'un problème. Et cette information-là, soit on peut la transmettre en temps réel au pilote, mais forcément, l'intérêt, ce n'est pas de le surcharger alors qu'il est déjà dans une situation difficile. Donc l'idée, c'est plus de collaborer avec des opérateurs et des industriels de l'aéronautique pour mettre en place des ajustements ergonomiques lorsque le besoin s'en fait ressentir. La deuxième application, c'est dans tout ce qui est entraînement et auto-évaluation. Donc l'idée là, c'est de collaborer avec les pilotes, mais aussi les médecins aéronautiques ou les personnes qui les accompagnent, afin de proposer un suivi et des retours en fait sur le ressenti et sur ce qui a été détecté pendant les vols.
Donc ce serait une sorte de feedback en fait, c'est ça ?
Oui, voilà, tout à fait. Retour d'expérience et des feedbacks.
Et du coup, tout ce dispositif, vous avez pu le tester sur l'équipe de France de voltige, avec le champion du monde notamment. Et c'est quoi la différence pour un chercheur de travailler en laboratoire avec des simulateurs ou en conditions réelles avec une équipe de voltigeurs ?
Alors, il y a deux éléments de réponse. Donc, en laboratoire, on peut effectivement contrôler pas mal de variables, ce qui est très bien. Mais en même temps, on est souvent un petit peu loin de la réalité de terrain. Donc là, c'était vraiment une opportunité unique d'aller effectivement directement enregistrer en vol avec tout simplement chez les tout meilleurs, et, tout simplement donc les différentes variations d'oxygénation pendant une vingtaine de minutes, hein, c'est des séances de vol d'environ une vingtaine de minutes, et on a eu effectivement l'occasion ici de pouvoir apprécier des variations successives en J négatif, en J positif, et multipliées par on va dire x12, x15 selon un petit peu l'état, et on voyait des variations de moins 10 à plus 10 G hein, sur ces différents vols. On ne pourra jamais reproduire ça en laboratoire, même avec un simulateur de mouvement ou tout simplement donc une centrifugeuse, on n'aura jamais l'opportunité de le faire. Donc ici, on a la capacité de regarder ce qui se passe vraiment dans des conditions extrêmes, en environnement hostile, ben, les résistances à la tolérance quasiment de l'être humain. Donc c'est vraiment ici, pour un chercheur en tout cas, une opportunité qui est vraiment très très appréciée. En tout cas, on a eu vraiment l'occasion aussi de croiser des gens si formidables, des sportifs de haut niveau. Et leur état d'entraînement fait qu'ils peuvent tolérer ces charges. Attention, le commun des mortels, automatiquement, on en est bien loin en termes de valeurs extrêmes.
Et cette invention, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse, par exemple, le secteur aéronautique aussi ?
Alors, en termes de transfert, on peut le voir de différentes manières. Hein. C'est vrai que mesurer l'état opérationnel, on va dire ici peut-être la dimension cognitive, en fonction de la tâche qu'on est en train de réaliser. C'est émergent, c'est ce qu'on appelle une discipline, on va dire, au carrefour de deux autres, à savoir la neuroergonomie, les neurosciences d'un côté appliquées à l'ergonomie. Et on a des applications dans le domaine clinique, par exemple, ou tout simplement dans le domaine sportif. À chaque fois, c'est renvoyer ici une information sur l'activité cérébrale, gérer cette information. Et on peut moduler les réponses en tout simplement comportementales en conséquence. Donc ces applications sont en train d'être, on va dire, mises en place, notamment dans des environnements de type réalité virtuelle, aussi bien dans le milieu clinique, pour la rééducation de personnes qui présentent certaines déficiences motrices, comme dans le contexte purement sportif, pour apprendre par exemple à mieux avoir, on va dire, une attention ciblée vis-à-vis d'un retour de service, si je prends l'exemple du tennis.
Alors, vous continuez actuellement votre collaboration et je crois que vos prochains travaux porteront sur l'effet de l'altitude, peut-être même qu'ils sont commencés. Alors, dans quelles conditions vous allez les réaliser, ces études ? Guillaume, peut-être ?
Oui, donc dans le cadre de ce prolongement de collaboration, on s'intéresse au phénomène de l'altitude et son impact sur l'activité cérébrale. L'idée derrière ce programme, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce que certaines personnes, comme les pilotes ou des alpinistes, sont capables de maintenir un niveau de réflexion malgré une perte d'oxygène. Donc pour mener ces expérimentations, on a découpé le programme en deux phases. Une première phase où on va faire de l'hypoxie simulée en laboratoire. Donc l'hypoxie, c'est la diminution de l'oxygène par rapport aux besoins du corps. Et donc là, on va influer sur l'air qui est inspiré. Donc on va diminuer le taux d'oxygène lors de tests en laboratoire, donc à Euromove. Et puis dans un second temps, on va mener des tests dans des caissons. Donc les caissons, c'est des grandes boîtes de métal où on va enlever de l'air. Donc là, on va aussi jouer sur la pression pour être vraiment au plus proche de la condition réelle. Et là, on va mener aussi pareil des expérimentations, où on va monitorer, on va faire des mesures physiologiques de l'activité cérébrale, de la voix, mais aussi des tests cognitifs pour voir si les individus arrivent à maintenir une certaine performance.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous vous intéressez particulièrement à l'ergonomie. Est-ce que l'objectif à terme, ce serait de concevoir justement des avions intelligents, entre guillemets, des avions capables de s'adapter aux pilotes ? Vous l'avez un peu soulevé tout à l'heure, cette idée-là.
Oui, parce qu'en fait, on remarque en fait qu'avec l'évolution des systèmes, ceux-ci deviennent de plus en plus intelligents et gèrent de plus en plus d'informations. Et l'avenir de ces systèmes, ce sera de travailler sur la collaboration entre l'homme et le système informatique. Et pour cela, on pense que la prochaine grande étape, c'est de travailler sur ce dialogue-là, où la machine fait ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire calculer, et l'homme fait ce qui est sa spécificité, c'est-à-dire la prise de décision, et donc la bonne intelligibilité et la bonne compréhension de cette liaison, surtout dans un milieu qui est à risque, contraint soit par des accélérations, soit par des phénomènes d'oxygène, nous semble la prochaine marche dans l'ergonomie.
Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à nos questions et avec des explications très claires et très détaillées. C'était passionnant. On passe maintenant à notre séquence reportage. Je vous propose de tripoter à pleine main et en 3D une protéine. Comment c'est possible ? Grâce à la réalité virtuelle et au programme conçu par Nicolas Floquet, chercheur en pharmacologie moléculaire à l'Institut des biomolécules Max Mousseron. C'est long. Aujourd'hui, il nous propose de faire connaissance avec la fameuse protéine Spike, la porte d'entrée dans nos cellules de l'afro-Covid-19. Mais comme je vous l'ai dit, avec une méthode un peu particulière.
Alors on se trouve à l'école de chimie de Montpellier, où exactement dans la salle MUSVR, c'est une salle qu'on a mis en place pour la dédier en fait à l'utilisation de la réalité virtuelle pour des outils pédagogiques, donc notamment pour enseigner la chimie et la biologie structurale. Dans cette salle, on a 8 stations de travail en fait, et donc on les a équipées de casques de réalité virtuelle, donc des casques ici Oculus, qui permettent de visualiser mieux, on va dire, les structures de molécules, et donc aussi de les manipuler et de les travailler à plusieurs, donc en collaboratif.
Et donc aujourd'hui, tu vas me proposer de tester justement. Alors qu'est-ce qu'on va voir ?
Donc aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu ce qu'on fait pour la fête de la science, c'est-à-dire comment on peut visualiser les structures du Covid et en particulier la structure de la protéine Spike, dont on a entendu malheureusement trop parler ces dernières années et qui permet au virus en fait d'infecter les cellules humaines. On leur montre en fait les structures de ces objets-là, de ces protéines et comment en fait on peut expliquer leurs fonctions grâce à leur forme.
Quel est l'intérêt de la VR justement pour expliquer au grand public ces choses-là ?
La VR en fait c'est un outil qui permet une prise en main quasi immédiate et donc aussi de mieux visualiser les structures. Et donc expliquer par les formes et comment elles s'emboîtent, comment elles interagissent entre elles, justement tout ce qu'il y a derrière au niveau biologique. Alors on l'utilise aussi en recherche hein, pour faire des réunions nous on travaille en modélisation moléculaire donc en fait ça nous aide à mieux visualiser nos modèles. Donc là aussi, on utilise cet outil parce qu'il facilite les discussions entre chercheurs qui ont des backgrounds complètement différents. Et oui, on l'utilise aussi pour, à des fins d'enseignement. Donc mon collègue qui est enseignant, Maxime Louet, qui travaille avec moi directement dans l'équipe, lui l'utilise en TP, donc pour initier les étudiants, notamment à tout ce qui est structure de biomolécules.
Il y a beaucoup d'universités qui disposent d'une salle comme ça ou pas ?
Alors, à ma connaissance, il y a très peu d'initiatives où il y a ce type de salle dédiée réellement à la réalité virtuelle. Je connais quelques initiatives à Paris et à Lyon aussi.
Il n'y a plus qu'à essayer.
C'est complètement fou. Pour les auditeurs, je suis là dans une espèce de pièce ronde. Et donc, je suis au milieu, il y a un tableau, donc un tableau de menu, c'est ça, à côté de moi ?
Ouais, voilà, qui permet en fait d'accéder à toutes les fonctions du logiciel.
Ok, et donc à la place des manettes que je tiens dans la vraie vie, j'ai deux petites mains bleues qui me permettent de tout attraper. Je peux la tourner à 360 degrés, cette molécule, je peux bouger dedans.
Tu as parlé de la taille des protéines, donc là on est dans quelle échelle ?
Alors là, une protéine, donc on va parler de la protéine Spike, qui est une assez grosse protéine, mais en gros, on est entre la dizaine d'angstrom et la dizaine de nanomètres en fait. Donc une protéine, si on voulait la visualiser dans notre main, comme on va faire en VR, on est à une échelle de 15 millions, on grossit 15 millions de fois pour vraiment se représenter ces objets-là.
Et toi, est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire du coup ?
Oui, sur l'écran, je vois exactement ce que tu es en train de faire, ce qui permet justement, quand l'étudiant est en train de manipuler, de voir ce qu'il fait et s'il a un problème, de lui expliquer comment résoudre son problème. En rose, en bleu foncé et en bleu ciel, tu as les trois parties qui constituent la protéine Spike.
D'accord.
Donc c'est la protéine du virus qui permet de s'ancrer aux cellules humaines. Donc en fait, ce que j'ai représenté en fil vert et aussi en hélice rouge, ça par contre, c'est les trois copies de nos récepteurs qui permettent justement au virus de venir s'accrocher à nos cellules. Ici, ce qu'on voit, c'est comment c'est replié dans l'espace, comment la protéine se replie dans l'espace. Encore une fois, c'est super important parce que ce repliement dans l'espace, c'est ça qui va dicter la fonction de la protéine.
Donc là, je l'ai attrapé et les fils dont tu es en train de me parler, je les ai agrandis et je suis au milieu en fait. Même.
Ouais, c'est l'avantage aussi de ce type de méthode, c'est qu'en fait, on va pouvoir mettre la tête dans l'objet, visualiser vraiment
là, j'ai l'objet. J'ai agrandi au maximum et ils sont au-dessus de ma tête. Et donc quand on agrandit à fond les parties bleues...
Les tout petits bâtonnets qu'on voit à l'intérieur, en fait, c'est vraiment la structure chimique de la protéine. Donc on va pouvoir voir les atomes et les liaisons chimiques entre les atomes. Donc vraiment voir comment, quelle est la structure fine en fait de la protéine. Avec ces outils-là, on peut travailler en mode collaboratif. Nous ici dans la salle, on a 8 casques. Ouais. Mais quelqu'un qui est équipé d'un casque, qu'il soit à New York, Sydney ou à Paris, il va pouvoir travailler avec nous de la même façon.
Ah ouais.
Et cet outil-là, ce logiciel, il permet de travailler jusqu'à 20 autour du même objet en fait. Donc vraiment un cours en fait sur la structure d'une protéine. Ce que je trouve assez parlant aussi, c'est qu'on peut montrer avec les doigts, on peut vraiment discuter de l'objet en fait, ce qu'on peut pas faire avec des outils plus classiques.
Tu vois ce petit fil qui brille là, tu le vois ou pas toi ?
Oui, c'est la distance que j'ai mesurée tout à l'heure. Ah, okay, pour avoir, si tu zoomes, tu vas voir la distance en fait que j'avais mesurée.
C'est fou. Ah oui, d'accord.
125 angstrom d'un bout à l'autre.
Ok. Et tu peux avoir des images dynamiques là, elle est fixe l'image du coup que je manipule, mais tu peux avoir par exemple du mouvement.
Alors oui. Alors pour le moment dans ce logiciel-là pas trop encore, mais c'est dans les clous. L'idée c'est de pouvoir aussi voir les molécules en mouvement et prédire comment elles interagissent aussi, enfin comment elles sont flexibles, comment elles peuvent s'adapter l'une à l'autre et donc. Oui, l'aspect dynamique, c'est quelque chose qui va être implémenté dans ce logiciel-là sous peu, quoi.
Et donc, cette salle, s'il y a des profs qui veulent s'en servir, elle est accessible pour eux, c'est bien ça ?
Oui, l'idée du projet, c'était de rendre cette salle accessible à tous les gens qui travaillent dans le périmètre de MUSE, donc tous les collègues, en chimie, mais aussi dans d'autres disciplines. L'idée vraiment, c'est de tester d'abord les solutions logicielles qui existent dans leurs spécialités respectives, de voir si on peut les déployer pour qu'ensuite ils les utilisent en TD ou en TP, donc en réservant la salle et tous les outils qui vont avec. Et là, on réfléchit déjà à un MUSE VR 2.0. L'idée justement, c'est d'avoir des casques sans fil pour promouvoir la VR Notamment, moi j'aime bien aller dans les collèges et lycées, donc montrer ces outils-là, montrer les structures des protéines à des élèves de collège ou lycée, et voir aussi à des étudiants, encore une fois, ce côté mobilité de la VR avec les casques sans fil apporte vraiment plein de possibilités à ce niveau-là.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.